La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Un empoisonnement universel, c'est de produits chimiques dont parle Fabrice Nicolino dans une nouvelle enquête édifiante qui paraît aux éditions Les Liens qui Libèrent. Fabrice Nicolino, vous êtes l'invité de La Tête au Carré, avec vous, à vos côtés, le député PS de Haute-Garonne, Gérard Bapt. On va consacrer donc les toutes premières minutes de l'émission à votre ouvrage et puis ensuite vous allez discuter avec Gérard Bapt. Je sais que vous avez plusieurs questions très précises d'ailleurs à lui poser, tout comme les auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et également avec les messages sur les réseaux sociaux. Le mot-clé, l'attaque. Fabrice Nicolino, donc après les pesticides et les ravages de l'industrie de la viande, vous proposez donc une nouvelle enquête sur les produits chimiques avec comme toujours une partie historique pour bien comprendre ce qui a fait le lit du problème que vous exposez et puis une revue de la littérature scientifique avec beaucoup d'exemples très concrets. C'est une véritable catastrophe sanitaire et environnementale que vous décrivez, qui poursuit d'ailleurs ses ravages sans jamais être vraiment inquiété. Selon l'OMS, combien de millions de morts chaque année seraient directement justement liées aux produits chimiques?
On parle de 7 millions, mais ce sont des estimations. Je ne pense pas qu'on puisse. On ne dispose pas de chiffres très précis parce que le problème n'est pas précisément défini, à mon sens.
Gérard Bapt, c'est l'un des écueils, justement.
À la mortalité, puis à la morbidité qui. Par contre, elle a bien été reconnue récemment dans une assemblée générale de l'ONU à l'initiative de l'OMS et qui vient d'indiquer que face à l'épidémie de maladies chroniques, nos systèmes de protection sociale vont être rapidement débordés.
Oui, avec évidemment le coût hein, évidemment de tous ces malades. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Fabrice Nicolino? L'histoire commence pendant la guerre 14, tout simplement. C'est un petit peu le premier pas de ce lien entre l'industrie chimique et la guerre.
C'est le tournant. C'est vraiment un tournant historique qui change tout parce qu'en fait, à partir de cette date-là, l'industrie règne sans partage et surtout règne dans l'impunité la plus totale. Alors, l'exemple le plus manifeste qui est affreux en même temps, c'est celui du chimiste allemand Fritz Haber. En quelques mots, Fritz Haber est un chimiste génial.
Prix Nobel de chimie en 1918.
Il reçoit le prix Nobel de chimie en 1918 pour la synthèse de l'ammoniac, ce qui est une invention prodigieuse. Oui. Donc c'est un chimiste extraordinaire, mais c'est aussi un nationaliste, un homme extraordinairement chauvin. Et en 1914, il prend parti, bien sûr, pour l'Allemagne, mais d'une façon très grossière, d'une façon très agressive et même très raciste. Et il décide de lancer, et c'est du jamais vu dans l'histoire humaine, la guerre des gaz par la chimie. Oui. Et il organise un régiment qui s'appelle le régiment Peterson, et le 22 avril 1915, sur le front belge, face aux tranchées françaises, il y a quelques dizaines de membres de ce régiment Peterson qui débouchent des cylindres très lourds, plusieurs dizaines de kilos, qui débouchent 5000 cylindres en acier remplis de chlore, qui se déversent grâce à une météo favorable sur les tranchées françaises. Et en quelques minutes, plusieurs milliers de soldats meurent, étouffés, asphyxiés par ces gaz de combat. C'est donc une nouveauté radicale et... La chose inouïe, me semble-t-il, c'est qu'à la sortie de la guerre, Haber, donc on l'a dit, va recevoir le prix Nobel pour une autre invention. Mais surtout, à la sortie de la guerre, il craint d'être inquiété, il craint même d'être emprisonné. Il s'enfuit en Suisse parce qu'il figure sur une liste de criminels de guerre. Cette liste est amputée dans des conditions qu'on ne connaît pas. Il n'y figure plus. Il revient en Allemagne recevoir ce prix Nobel et ensuite il continue ses activités comme si de rien n'était. À la suite d'Haber, je dis au passage, bien qu'il n'en soit pas responsable, parce qu'il avait créé lui un insecticide, un pesticide, mais c'est dans son laboratoire qu'a été synthétisé le zyklon B, de sinistre mémoire, qui a tué des millions d'êtres humains, surtout des juifs et des...
Qui était destiné aux rats et aux insectes, hein, au départ.
Qui était destiné aux rats et aux insectes, donc Haber n'en est pas responsable, mais c'est tout de même dans son laboratoire que ça a été synthétisé. Et à sa suite, en Allemagne nazie, des chimistes tout à fait criminels contre l'humanité, à la suite de Gerhard Schrader, ont inventé des gaz comme le sarin, qu'on connaît très bien aujourd'hui, puisqu'il est utilisé en Syrie contre les populations civiles. Et en fait, le point commun à toutes ces aventures extrêmes, c'est l'impunité et l'irresponsabilité qui va de pair.
C'est-à-dire que c'est une constante, au fond, hein, dans ce milieu des produits chimiques.
Absolument. C'est-à-dire que les chimistes nazis qui ont, par exemple, participé quand même à la construction de l'usine de Buna à Auschwitz, une usine de caoutchouc synthétique, eh bien, ces chimistes nazis sont morts dans leur lit. Et la plupart ont refait carrière après la guerre dans l'industrie chimique comme si de rien n'était. Mmh. Et à mon sens, l'une des clés, vraiment essentielles pour comprendre à quel point l'industrie chimique est irresponsable, c'est cette impunité totale dont elle a bénéficié depuis environ 100 ans.
C'est effectivement l'un des gros problèmes que vous dénoncez dans cet ouvrage. C'est-à-dire qu'on ne demande jamais de compte finalement à l'industrie chimique, avec une industrie qui est dans sa toute puissance, qui n'a pas de garde-fou. Là-dessus, Gérard Bapt, vous êtes d'accord ou pas?
Ah oui, je suis d'accord. Il est très instructif de lire le début du livre hein, qui raconte la façon dont le développement de l'industrie chimique a été très, très intimement lié à l'industrie de la guerre. 14-18, 39-45, puis on peut passer aussi aux agents défoliants au Vietnam.
Mais sur l'impunité, sur la question de l'impunité.
Sur l'impunité, la liste dans le livre figure avec des âges canoniques de tous ceux qui sont morts effectivement tranquillement dans leur lit et parfois même donc avec le prix Nobel.
Oui, mais le problème, c'est que ça continue encore aujourd'hui, apparemment, cette impunité de l'industrie chimique.
C'est tout à fait certain, parce qu'en vérité, on en parlera peut-être tout à l'heure avec Gérard Bapt, en vérité, les autorités publiques et politiques, où que ce soit dans le monde, et en particulier en Europe et en France, ces autorités, pour des raisons qu'on évoquera sans doute, elles ne se sont jamais manifestées, elles n'ont jamais légiféré, elles ne se sont jamais opposées à cette toute-puissance de l'industrie chimique. Elles ont laissé cette industrie développer des produits nouveaux par milliers et maintenant par centaines de milliers, sans qu'on sache quelle est leur nocivité, ou quand on le sait, mais il y a de quoi être évidemment très inquiet, puisqu'on sait, pour les produits qui ont été testés, on sait que beaucoup d'entre eux ont des propriétés cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, etc. etc., etc.
On le disait tout à l'heure, 90 millions de substances chimiques enregistrées aujourd'hui au moment où on se parle, parce que ça évolue de minute en minute.
Absolument, à chaque minute, il y a un compteur qui tourne. Et c'est, en fait, on pense qu'il y a entre 20 000 et 30 000 substances chimiques synthétisées par les hommes, nouvelle chaque jour qui passe, qui est tout à fait incroyable et qui montre que toutes les digues ont cédé et que le contrôle dans ces conditions-là, le contrôle d'autant de substances qui ont été créées sans aucun discernement et sans aucun contrôle, le contrôle possible de ces substances est vidé de toute substance parce qu'il y en a trop, tout simplement.
Alors, ce fera partie des questions que vous poserez tout à l'heure justement à Gérard Bapt. Un des exemples les plus emblématiques traités dans votre livre, Fabrice Nicolino, ce sont les perturbateurs endocriniens, le cas du bisphénol A. On va parler du BPA, c'est comme ça aussi qu'on appelle le bisphénol A. On doit d'abord la découverte des perturbateurs endocriniens à une femme, on peut peut-être le signaler au passage.
Ah oui, moi
Son nom est peu connu d'ailleurs du grand public.
Je suis très heureux que vous me tendiez cette perche-là parce que Theo Kolbornt, c'est son nom. C'est une biologiste américaine qui doit avoir à peu près de 80 ans aujourd'hui. C'est une femme admirable et Dieu sait si quelqu'un devait mériter sur cette terre un prix Nobel, ce serait bien elle. En tout cas, elle est zoologiste. Elle travaille sur des animaux de la région des Grands Lacs aux États-Unis. Et dans les années 80, elle comprend avant tout le monde, il faut le dire, dans les années 70 et 80, elle comprend avant tout le monde que beaucoup de ces animaux souffrent d'affections nouvelles, que leur reproduction est altérée, que leur fertilité est touchée. Bref, il se passe quelque chose, leur équilibre est atteint. Et elle va forger, en effet, en 1991, à l'issue d'une toute petite réunion bricolée sur un coin de table, dans un tout petit bled, pardonnez-moi le mot, dans un tout petit village.
Oui, ça n'a pas attiré grand monde à l'époque.
Oui, il y avait 30 personnes et puis des gens, des scientifiques, certes, mais inconnus non seulement du public, mais de la communauté scientifique. Et malgré cela, ces gens, en pionniers parfaits, mettent au point, créent cette expression prodigieuse de perturbateur endocrinien qui aujourd'hui s'est imposée dans le monde entier.
Alors Gérard Bapt, le bisphénol A, vous connaissez très bien le problème évidemment. Je crois que vous avez été le tout premier maire d'ailleurs à interdire les biberons dans votre commune.
Oui, non pas seulement dans les crèches, mais effectivement j'avais interdit par arrêté municipal la vente de biberons au bisphénol sur ma commune avec la police municipale qui était chargée de contrôler.
Donc bien avant l'interdiction.
Oui, quelques mois après venait un rapport de l'ANSES qui a fait véritablement démarrer les choses face à l'autisme absolu que la ministre de la Santé à l'époque, Roselyne Bachelot faisait preuve lorsqu'on lui posait des questions d'actualité, des députés centristes ou de l'opposition sur ce sujet-là.
Oui. Alors le bisphénol A, Fabrice Nicolino, rappelez-nous ce qu'est exactement cette molécule, comment elle fonctionne.
Oui, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'industrie a besoin d'adjuvants, c'est-à-dire de produits qui sont ajoutés à d'autres produits chimiques, par exemple le PVC, les tuyaux en PVC, il n'existerait pas sans ces adjuvants, sans ces produits qu'on ajoute, qui sont souvent des plastifiants, comme le bisphénol A ou comme les phtalates. Et ce sont des produits extrêmement intéressants pour l'industrie. Mais pour les humains, il est clair que ça représente énormément de dangers. Moi, je suis un peu circonspect parce qu'on polarise beaucoup l'attention de la société française sur le bisphénol A et sur son interdiction. Mais aujourd'hui, au moment où je parle, on connaît environ 900 produits chimiques qui agissent comme des perturbateurs endocriniens et on en découvre tous les jours. Ouais. Il est hautement probable que dans les années qui viennent, le nombre atteindra plusieurs milliers.
Alors pourquoi est-ce qu'on parle autant du bisphénol A ? C'est précisément parce qu'il était présent dans les biberon et que ça a ému la population.
Oui, exactement. Exactement, ça a été le défaut de la cuirasse. Hein. Le bisphénol A, ce pauvre BPA, a eu le malheur d'être intéressant pour fabriquer les biberons, puisqu'il donnait la rigidité nécessaire. Et ça a été beaucoup plus facile, bien sûr, de sensibiliser l'opinion publique sur la question du biberon, parce que cela concerne directement le nouveau-né, la mère, la famille. Mais bien d'autres bisphénols, par exemple le bisphénol S, a aussi des propriétés de perturbation endocrinienne.
Est-ce que c'est le BPS, hein ?
BPS.
Alors, voilà. On a un courriel justement de Vincent qui nous dit « Qu'est-ce qu'on doit faire quand on nous vend des biberons sans BPA reconnus dangereux, alors remplacés par du BPS, aussi dangereux mais pas reconnu comme tel pour le moment ?»
En principe, du BPS, il n'y en a pas les biberons. Par contre, il y en a dans les encres qui servent aux petites notes qu'on imprime par thermosensibilité à la sortie des supermarchés. Et vous aviez au départ la publicité. Moi, j'en avais été heureux au départ, ticket de caisse sans bisphénol A. Mais on oubliait de dire qu'il y avait à la place du bisphénol S, qui lui-même, s'il a peut-être une activité perturbatrice endocrinienne moindre, par contre, sa durée de vie est plus longue. Voilà. Donc voilà la difficulté qui est pointée bien sûr par M. Cicolino, de la multiplicité. Pardon.
Il y a André Cicolella et Fabrice Nicolino, mais c'est normal.
C'est vrai qu'André Cicolella était pour quelque chose.
Exactement, c'est pour ça
que. Dans mon militantisme sur ce plan-là.
Exactement, c'est pour ça.
La difficulté, bien entendu, c'est la multiplicité des substances concernées. Il faudrait maintenant traiter par famille, y compris d'ailleurs pour les pesticides.
Mais c'est gigantesque.
Vous voyez bien en face de quel problème pratiquement insoluble on est. Parce que, donc, on mobilise la société, le jeu des lobbies intervient, on perd du temps, des mois, voire
sur
des années.
Molécule, hein.
Sur une molécule. Et quand enfin elle est interdite, on la remplace par des molécules qui sont parfois plus dangereuses encore. Donc on voit bien qu'on est en face d'un véritable mur qui, pour l'heure, reste infranchissable.
Alors, on est au cœur du problème, Gérard Bapt. Comment on répond à ce problème-là en particulier ? Parce que ça sert à quoi de focaliser effectivement sur le bisphénol A, alors qu'il y a beaucoup d'autres molécules qui posent problème aujourd'hui ?
Ben, ça sert en l'occurrence, au moins en ce moment, à pointer les méthodes de ceux qui veulent que l'on masque ce problème. Puisque, en principe, la loi nationale dit qu'à partir du 1er janvier 2015, les contenants alimentaires contenant du bisphénol A et laissant donc passer
mais c'est remplacé par quoi ?
doit être interdit.
Interdit, donc
mais
remplacé.
Pour le moment, c'est une loi nationale. Il faudrait donc interdire les boîtes de conserve qui contiennent des résines époxy qui laissent filtrer ce bisphénol aux frontières à partir du 1er janvier 2015. Nous comptions bien entendu sur une avancée européenne.
Interdit, mais remplacé par quoi ?
Il existe des substituts. Vous avez maintenant des phénols d'origine végétale. Vous avez beaucoup de recherches en ce moment et des produits qui sont déjà d'ailleurs
qui seront proposés, au 1er janvier 2015.
Sur le marché, notamment aux États-Unis. Le problème est réglé en ce qui concerne les contenants alimentaires lorsqu'ils ne doivent pas être chauffés. Les contenants alimentaires, lorsqu'ils ne sont pas chauffés, il y a des substituts qui existent. Par contre, les contenants alimentaires, lorsqu'ils sont acides, il y a encore un problème de substitut. Nous sommes dans l'attente. Ce devrait être remis au Parlement depuis le mois de juillet, mais nous n'avons pas encore ce document. Une enquête de la DGCCRF, des produits de contrôle, des services de contrôle, sur cette question de substituts qui peuvent permettre de remplacer ces résines époxy contenant du bisphénol A par des substances ayant les mêmes propriétés d'isolation dans la boîte de conserve qui peut s'oxyder.
Et vous pensez que dans 3 mois, on sera au point ?
Oui, non, mais... J'espère que dans 3 mois, on sera au point. Mais le problème, c'est le problème européen désormais. Oui. Parce qu'il y a eu tellement de retard pris au plan européen que nous sommes toujours dans l'attente de ce qui ne serait que la définition par l'Europe de la perturbation endocrinienne.
Fabrice Nicolino. Mais là, ce que vous exprimez à mes yeux, à mes oreilles en tout cas, c'est vraiment l'impuissance de la politique à affronter ces questions-là. Parce que je rappelle tout de même qu'on est en train de parler d'une molécule. Moi, ce que je dis, ce que je sais, ce que tous les chimistes savent, c'est qu'il existe aujourd'hui environ 900 produits qui sont considérés comme des perturbateurs endocriniens. Il y en aura demain 5 000, puis 10 000, puis peut-être 100 000, puis peut-être 1 million. Donc, on voit bien qu'on est face à une marée et qu'on perd un temps fou à arrêter la société française sur un produit qu'on n'arrive d'ailleurs pas à remplacer efficacement. Vous dites que l'Europe devrait s'y mettre, mais qu'elle ne s'y mettra peut-être pas. Autrement dit, ce que vous décrivez est une impasse au plan politique et qui ne garantit en aucune façon la santé des consommateurs.
Voilà. Et la victoire de l'industrie chimique, qui doit beaucoup s'amuser.
Mais bien entendu, quand l'industrie chimique, quand vous réussissez à imposer cette décision, à mon sens dérisoire, à l'industrie chimique qui consiste à interdire le bisphénol A dans les biberons et que vous lui laissez la possibilité de se retourner vers des molécules qui sont parfois plus dangereuses et qu'il n'y a pas de législation concernant ces molécules-là, en fait, vous donnez un avantage à l'industrie chimique et vous lui permettez de continuer à œuvrer dans l'impunité la plus totale. Donc ça me paraît très grave, franchement.
Allez, réponse de Gérard Bapt là-dessus.
Je crois que
sur l'impuissance politique.
Cette émission permet justement de donner des soutiens, l'opinion publique, les consommateurs, à ceux qui veulent qu'on soit plus efficace au plan politique, national et européen, contre ce danger qui est aujourd'hui avéré. Et tous les jours sortent de nouvelles études, comme celle qui va sortir bientôt de mon ami le professeur Sultan de Montpellier, qui montre l'explosion de la façon dont des jeunes filles de plus en plus jeunes connaissent les pubertés précoces, ou dont les jeunes garçons ont des malformations, des dysgénésies testiculaires.
Mais vous ne répondez pas vraiment à Fabrice Nicolino sur l'impuissance des politiques.
Je crois qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante et convaincante.
Vous êtes d'accord, Gérard Bapt, là-dessus ? On focalise l'attention, ce qui est très bien, sur le bisphénol A dans les biberons, c'est parfait. Mais on se dit, mais les industriels doivent s'amuser de nous voir justement focaliser les choses là-dessus, alors qu'il y a tellement d'autres molécules qui posent problème.
Oui, mais je suis bien d'accord avec vous. Le problème, c'est d'avoir la puissance suffisante. Vous voyez comment les problèmes de santé sont évacués des échéances électorales majeures dans notre pays.
Mais qu'est-ce que vous faites dans cette... Gérard Bapt, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes élu depuis 40 années.
Il a fait beaucoup de choses quand même.
L'exemple extraordinaire, mais je le sais très bien. Gérard Bapt, c'est évident que ce n'est pas à lui personnellement que j'ai envie de m'en prendre, mais disons à tous les politiques qui écoutent cette émission et qui pourraient eux agir. En 2011, Gérard Bapt, l'Assemblée nationale, vous y étiez en 2011, c'était encore Nicolas Sarkozy, donc c'était la droite. Le 3 mai 2011, l'Assemblée nationale vote l'interdiction des phtalates, l'interdiction des parabènes et l'interdiction d'une autre famille chimique, les alkyphénols. C'était sensationnel, on n'avait jamais vu ça nulle part dans le monde. Donc c'était une avancée qui paraissait vraiment intéressante, même impressionnante à certains égards. Que s'est-il passé ensuite ?
C'est passé à la trappe.
C'est passé totalement à la trappe. Et quand votre famille politique est revenue au pouvoir en mai 2012, à la suite de l'élection de François Hollande, qu'est-ce que votre famille politique a fait ? Strictement rien. Ce projet de loi a été purement et simplement abandonné. Et on vit, et il faut vivre, il faut supporter de vivre avec des phtalates, des parabènes, dans les cosmétiques, dans les produits d'usage courant quotidien. C'est très grave quand même.
Non, vous savez que régulièrement, un certain nombre de catégories de ces produits-là sont éliminées, notamment des jeux pour les jeunes enfants, notamment des produits cosmétiques.
Et qu'il y a des décisions
européennes sur laquelle la France à l'heure actuelle pousse d'interdiction. La seconde chose, c'est que nous avons une loi devant nous à appliquer. Je crois qu'il faut d'abord se concentrer là-dessus et agir au plan européen pour qu'enfin la question de la perturbation endocrinienne en tant que telle soit reconnue à sa véritable gravité.
Ouais.
Et ça, c'est toujours devant nous. Et j'espère qu'avec la nouvelle commission, Parlement, nous allons avancer. En tout cas, j'ai rencontré récemment, successivement, Marisol Touraine pour la santé, Ségolène Royal pour l'environnement, et très récemment encore Harlem Désir pour les questions Commission européenne, de manière à pointer le doigt sur l'application de notre loi concernant, au moins en commençant par l'interdiction du BPA.
Que la France soit dans cette crise de la représentation politique, les gens en ont quand même assez, je veux dire, massivement. Il y a des millions de victimes de cela dans un pays comme la France. Ce qu'ils demandent, c'est quand même pas la lune, ils demandent à leurs responsables publics et politiques de les protéger, de les défendre dans cet élément essentiel qui est leur santé quotidienne et celle de leurs enfants. Or, ils ne font strictement rien.
Alors pourquoi,
vous parlez de réunions où on parle, mais on parle depuis combien d'années, Gérard Bapt ?
Est-ce que le poids des lobbies, justement, ne pose pas un problème, tout simplement, au monde politique, qui a bien du mal à se défendre face, quand même ? Il y a des lobbies hyper puissants dans le domaine du plastique, par exemple, c'est phénoménal. C'est des centaines de milliers d'emplois, Gérard Bapt.
Il n'y a pas que le poids des lobbies. Il y a aussi le fait que les milieux scientifiques eux-mêmes sont traversés par des mouvements contradictoires. Il y a le fait que l'Académie des sciences, j'ai appris ce matin, va demander un droit de réponse au livre de Fabrice Nicolino.
Il y a
le fait que quand je croise moi tel ou tel représentant à l'Assemblée, on me dit tiens, avec encore ton affaire de BPA ou de Red Bull, tu vas nous supprimer des emplois dans notre circonscription.
Mais voilà, c'est
un véritable épreuve. Je ne suis pas seul à l'Assemblée nationale lutter dans ce sens.
Mais
il faut bien
dire
qu'un petit nombre simplement de représentants sont véritablement sensibilisés à cette question. Et je compte intervenir à l'occasion de la construction de la stratégie nationale de santé en disant que dans le titre 1 qui concerne la prévention, la promotion de la santé, il est inacceptable qu'on ne cite pas la question des perturbateurs endocriniens à l'heure actuelle.
Mais cette question est sabotée, je l'explique dans mon livre. J'ai fait une enquête très longue, très passionnante pour moi, mais très inquiétante. Parce que cette question des perturbateurs endocriniens, elle est bien connue. Et vraiment, si vous pensez qu'elle est contestée sur un plan scientifique, je vous dis très sincèrement les yeux dans les yeux que vous vous trompez. Car en fait, les études s'accumulent, elles sont parfaitement concordantes, on sait à quoi s'en tenir. Et en effet, dans les coulisses, notamment au plan européen, avec cette fameuse agence de sécurité sanitaire des aliments, l'EFSA, il y a des conflits d'intérêts à tous les étages, il y a des cas tout à fait sidérants que je cite en détail dans le livre, c'est-à-dire que l'action publique à supposer qu'elle existe, elle est sabotée par l'existence de lobbies industriels extrêmement organisés. Vous avez le cas absolument époustouflant de responsables de l'industrie chimique européenne qui passent au service de l'agence de sécurité sanitaire, qui retournent vers l'industrie chimique, qui repassent à l'autorité sanitaire de sécurité des aliments. Et donc, on voit bien qu'il y a un tel niveau de conflit d'intérêts que véritablement... aucune action publique n'est entreprise, quand même.
Vous avez dû les combattre dans le domaine pharmaceutique avec Servier, par exemple. Ouais, vous avez été face quand même à un lobby gigantesque. On peut imaginer que ce soit exactement la même chose dans le monde...
Et dans le domaine chimique aussi, au moment de la fusion de l'AFSA et de l'AFSET, qui ont reconstitué cette nouvelle agence ANSES, j'ai été de ceux qui ont insisté sur les questions de transparence, gestion des conflits, des liens d'intérêts, de la mise en place d'une commission de déontologie et d'éthique. J'ai été de ceux sur le plan pharmaceutique qui, vous le savez, ont beaucoup lutté pour que de nouvelles règles soient mises en place en matière de transparence et de gestion des liens d'intérêt à l'agence du médicament. Après cette affaire du médiateur pour laquelle j'ai été de quelque chose en secondant Irène Frachon, tout ça, donc, c'est un combat de pied à pied, jour après jour, mais qui concerne, je le répète, une fraction... trop limité à l'heure actuelle des représentants parlementaires parce que l'opinion publique, contrairement à ce que vous dites, Fabrice Nicolino, l'opinion publique ne pèse pas beaucoup. Une fois, je me rappelle même, ici à France Inter, avoir lancé un appel pour que les auditeurs qui nous entendaient aillent voir leurs sénateurs et leurs députés dans leur permanence les persuader de voter la loi interdisant le bisphénol dans les contenants.
Je n'y crois plus.
Moi-même, j'avais demandé qu'ils aillent dans les permanences parlementaires.
Mais ils n'y croient plus.
L'opinion publique ne pèse pas grand-chose quand on voit les problèmes sanitaires, mais c'est hallucinant quand même.
Ils savent y aller dans les permanences quand il y a des problèmes et quand il faut défendre. Moi, je vais recevoir bientôt, vous voyez, les représentants des pharmaciens, des officines pharmaceutiques. Ils savent y aller, se déplacer. Mais sur ces questions-là, malheureusement, l'opinion publique elle-même n'est pas assez mobilisée.
C'était au carré sur France Inter avec Fabrice Nicolino et Gérard Bapt et les questions des auditeurs. Jackie nous dit ceci. C'est aujourd'hui que ça n'est pas forcément la dose qui fait le poison, notamment avec tous les perturbateurs endocriniens. Et ensuite, on ne tient pas compte dans les études des mélanges de molécules, de leurs interactions, alors qu'elles sont rarement utilisées seules. Ça aussi, la science nous a permis de le comprendre assez récemment.
Parce que je veux insister sur un truc. Ça n'est pas seulement un cri et une imprécation, mon livre. Loin de là. C'est une enquête fondée sur les meilleures revues scientifiques de la planète. Les études existent et elles sont consultables. elles sont citées une à une dans mon livre. Cette intervention de l'éditeur me plaît beaucoup parce qu'en effet, la toxicologie, la science des poisons, pour aller vite, elle est en train de vivre une révolution conceptuelle totale.
Ouais. C'est-à-dire ça change tout. Hein,
absolument, parce que depuis de Paracelse, qui est un homme prodigieux, mais du XVIe siècle, on a cru, tous les toxicologues de la planète et toutes les opinions derrière eux, ont cru que la dose faisait le poison. C'est-à-dire que plus on était exposé et plus on courait de risques. Et inversement, moins on était exposé et moins on courait de risques. Mais on sait aujourd'hui, la science est capable de nous dire aujourd'hui que les produits chimiques peuvent avoir des effets non monotones. C'est-à-dire qu'à des doses très faibles, ils peuvent avoir davantage d'effets qu'à des doses plus élevées. Et en effet, les rares tests qui sont faits, et ça répond à la deuxième partie de la question de votre auditeur, les rares tests qui sont faits ne prennent pas en compte les effets cocktails. C'est-à-dire qu'on analyse une molécule à côté d'une autre molécule, à côté d'une autre molécule, et ce que font les molécules quand elles sont assemblées dans un corps humain, par exemple, personne ne le sait. Juste une anecdote, j'ai bu un café il y a peut-être une année avec un des grands responsables de l'ANSES, cette fameuse agence de sécurité dont on nous vante l'excellence. Cet homme est d'ailleurs un homme charmant, un des grands directeurs scientifiques. Je bois un café avec lui et on parlait de cette question de la contamination chimique. À un moment, il se tourne vers moi et il me dit « Oui, vous savez, cette histoire de cocktail, ça nous préoccupe drôlement. Hein. Vous savez, on en saura peut-être un peu plus dans une ou deux générations. » Il me dit ça textuellement. On en saura peut-être un peu plus dans une ou deux générations.
Alors, Gérard Bapt, parce qu'il est 14h39.
Oui, ce responsable,
vous allez devoir partir dans pas
peut-être
longtemps.
Pas tout à fait au courant de l'ensemble des études qui sont faites par sa propre agence. À l'heure actuelle, l'ANSES vient de lancer des programmes de recherche sur justement le problème des cocktails et évalue désormais un certain nombre de substances en association. Ceci dit aussi, ce que je voudrais ajouter, c'est que il faut tenir davantage compte, à mon sens, et mieux mettre en valeur les recherches qui sont faites dans des organismes, non seulement l'INSERM, mais aussi l'INRA. Et à Toulouse récemment, une équipe de l'INRA vient de montrer comment, à des doses qui correspondent à la dose limite, paraît-il, pour rester en bonne santé, indiquée par les agences qui l'ont pourtant récemment baissée, comment on pouvait développer des allergies alimentaires alors qu'il y a 2 ans, on avait montré sur des cellules humaines que le bisphénol troublait la perméabilité des cellules intestinales. Bon, tout ça, donc, ça arrive tous les jours. Le problème, c'est d'en faire une synthèse. Parce que souvent, ces travaux sont éclatés. Les chercheurs eux-mêmes, dans les différents organismes, ne sont pas, en quelque sorte, au courant ou informés de ce qui se passe à côté. Allez. Voilà pourquoi, dans le plan national de santé environnement, je suis de ceux qui militent pour qu'on ait un institut de veille environnementale qui puisse être aussi un lieu ressource et un lieu où l'ensemble des connaissances fasse profiter tous les secteurs en même temps, parce que ça, là, je crois, s'imposera davantage désormais vis-à-vis, malheureusement, je le répète, de milieux scientifiques, notamment académiques, qui sont encore réticents malgré tous les faits avérés auxquels je constate que nous avons encore des réticences.
Une dernière question avant que vous nous quittiez, Gérard Bapt. Là, je m'adresse aux médecins. Les cancers, l'obésité, le diabète, les flambées évidemment autour d'Alzheimer, de Parkinson, tout ça, on sait bien que ça a un lien direct avec ce problème des produits chimiques. Pourquoi il y a justement aussi cette façon de ne pas réagir à ce qui se passe aujourd'hui? On sait qu'il y a tous ces mélanges qui favorisent ces maladies. Vous avez encore apporté une étude là, il y a quelques minutes.
Oui, cette étude montre sur les pubertés précoces, qui va sortir dans une revue prochainement. Il est aujourd'hui avéré que depuis 20 ans, la concentration en spermatozoïdes du sperme humain a diminué de moitié et que ça continue d'année après année. Donc il est clair qu'aujourd'hui, effectivement, il faut lancer un cri d'alarme et que la réaction politique, effectivement, soit à hauteur du problème. Oui. C'est une action de tous les jours et c'est une action qui mériterait que l'opinion publique et les consommateurs eux-mêmes, l'UFC Que Choisir aussi, très régulièrement lance des cris d'alarme, mais il faudrait que l'opinion publique et les politiques se saisissent désormais véritablement de cette question et puis traitent ce problème des liens d'intérêt avec l'industrie en général.
Et c'est le sens du message de Michel. Effrayant, dit-il en écoutant notre émission, quelle solution face à notre impuissance, à nous consommateurs, de boycotter au maximum les produits transformés, les conserves, les plastiques? Je crois pour ma part en l'action individuelle, en attendant ne pas désarmer, informer sans relâche, dénoncer les lobbies.
Bah oui. Évidemment, je suis tout à fait d'accord, mais vous voyez, j'écoutais Gérard Bapt et je me disais, il y a des questions qui sont pratiquement inconnue dans le débat public en France. Par exemple, la question de l'air intérieur. Franchement, c'est une question essentielle de santé publique et je gage...
C'est un autre pan de votre livre
absolument,
qui...
Absolument. Je gage que dans les années à venir, on en parlera énormément. Pour une raison très simple, c'est que nous passons 22 heures par jour dans un air dit intérieur. Cet air est farci, vous le savez Gérard Bapt, cet air est farci de molécules chimiques. On ne fait strictement rien. Encore hier ou avant-hier, Madame Ségolène Royal a retardé des mesures très concrètes concernant l'air intérieur dans les crèches en France. Donc on voit bien qu'on ne fait strictement rien. Or, l'air intérieur est très souvent beaucoup plus pollué par ces molécules chimiques que l'air extérieur. Et vous voyez, la chose qui me frappe le plus, c'est qu'il y a un organisme en France qui s'appelle le Centre scientifique et technique du bâtiment. Il a essayé de comprendre pourquoi on était incapable d'agir sur le terrain de l'air intérieur. Il a interrogé des gestionnaires de parcs immobiliers. Tous ces gestionnaires de parcs immobiliers interrogés ont dit leur peur d'être entraînés dans une logique de procès façon amiante. Ils ont, tout le monde est tétanisé par la peur d'avoir des comptes à rendre parce que, en effet, l'air intérieur est si gravement pollué qu'il faudrait prendre des mesures telles qu'elle ferait peur à tout le monde.
Allez, il faut qu'on libère Gérard Bapt, mais avant de partir, je voudrais vous lire ce message qui va vous faire plaisir quand même. C'est Benoît sur franceinter.fr qui nous dit ceci. Vous avez invité un député qui se bat, qui dépense son énergie dans le bon sens. Il mérite le soutien pour son combat, pas de se faire engueuler pour l'absence de résultats dû au blocage de tous les autres. Je vous le donne, comme ça vous pourrez le lire pour vous réconforter.
Merci William. Merci. Moi, je vais me servir du livre
de Fabrice Nicolino.
C'est tout à fait, parce que c'est une somme extraordinaire.
Et c'est un vrai boulot d'enquête.
Oui, qui est référencé. Ensuite, bien entendu, il y a son style, c'est le journaliste.
Oui, non, mais il se base sur des études scientifiques.
Le fond est scientifique et historique.
Absolument. Merci beaucoup, vous, Gérard Bapt, d'être venu cet après-midi dans La Tête au Carré. Fabrice Nicolino, il nous reste 5 minutes, donc on va pouvoir continuer ensemble. Il y a beaucoup de messages des auditeurs. Marjorie dit « Je m'étrangle en entendant que le public n'est pas mobilisé. » Bien sûr que nous le sommes, mais tout le monde ne peut pas faire le siège de son député ou de son sénateur. Par contre, je vote avec mon portefeuille, fini tous les produits chimiques, je me fournis en bio, j'ai viré mes poils en revêtement adhésif et autres contreplaqués. Mais nous manquons de lignes de conduite claires. On sait ce qu'il ne faut pas faire, mais on ne sait pas ce qu'il faut faire.
Ah,
le consommateur égaré.
Oui, c'est une vaste question. Je n'ai pas de réponse très claire. Je pense que face à une situation aussi dégradée que celle que nous connaissons, grosso modo, grossièrement, de deux choses d'une. Ou nous assistons à un sursaut, on va dire, historique et démocratique de nos sociétés. Il reste à savoir s'il y a assez de force disponible. Je crois, et surtout j'espère que oui. Ou il y a ce sursaut historique qui conduit à des changements dans la politique menée et qui conduit à des contrôles actifs face à la toute-puissance de l'industrie chimique. Ou malheureusement, il n'existe pas suffisamment de force pour imaginer ce sursaut. Et en ce cas, on va continuer à être contaminé et à être contaminé de plus en plus. Dans tous les cas, imaginons que tout se passe au mieux. Dans tous les cas, on ne peut pas sortir d'un système aussi gravement perturbé que celui-là en une année ou deux années ou cinq années ou même 10 années. Je pense qu'il faut imaginer des plans de transition, de sortie du tout chimique qui pourrait prendre 25 ou 30 ans dans un pays comme la France.
Vous y croyez vraiment ? Quand vous le dites, la sortie du tout chimique ?
Écoutez, la chimie de synthèse, elle a très grossièrement un siècle, un peu plus qu'un siècle. Donc elle a une histoire, elle a eu un début, elle aura fatalement une fin, quelle qu'elle soit,
Elle a quand même de beaux jours devant elle.
Elle a peut-être de beaux jours devant elle, mais le plus important, c'est de comprendre que ça, à mon sens, ça ne peut plus durer. Quand vous voyez une augmentation de l'incidence des cancers en France de 110% entre 1980 et 2012, quand vous voyez qu'on va passer d'1 million d'Alzheimer à peut-être 2 millions en 2020, quand vous voyez qu'il y a 15% aujourd'hui d'obèses en France contre 8,5% en 1997, et que des produits chimiques ont un effet que les Américains appellent obésogène, c'est-à-dire que c'est des produits chimiques qui peuvent provoquer l'obésité chez des êtres humains. Quand vous voyez tout cela, vous êtes obligé de vous poser des questions.
Alice nous dit ceci, je suis chimiste de l'environnement spécialisé dans les procédés de dépollution des eaux et des déchets. Je souhaite préciser d'une part les énormes progrès réalisés dans ce domaine ces dernières décennies, aussi le fait que l'amélioration constante des méthodes de détection analytique crée des nouvelles pollutions qu'on ne pouvait pas détecter auparavant. C'est notamment le cas avec tous les micropolluants dont vous allez certainement parler, dont on ne pouvait pas détecter les concentrations aussi faibles il y a quelques années.
Ah oui, ça me paraît très important. Et là, ça renvoie à la question clé pour moi aussi de l'eau dite potable. Vous voyez, en fait, on ne s'interroge pas sur l'eau potable parce que...
Qui est devenu un produit industriel aussi aujourd'hui.
L'eau est un produit industriel, hein, assurément. Et si vous voulez, il y a des restes, certes à des concentrations très faibles, on est bien d'accord. Mais prenez l'exemple du chlore, qui est massivement utilisé pour la purification de l'eau dite potable. Le chlore a des effets étranges. Il est capable, par exemple, de créer jusqu'à 600 sous-produits dont on ne sait rien. Une des seules classes chimiques de sous-produits du chlore qu'on connaît, c'est les trihalométhanes. On en retrouve la trace dans l'eau potable. Et cette classe chimique est réputée pour être cancérigène. Donc vous voyez où est-ce qu'on en est. Je veux dire, il y a des questions à se poser.
Et on trouve beaucoup de choses dans l'eau, hein. Des antidépresseurs, des hormones, des antibiotiques.
Nécessairement. Ou des plastiques qu'on ne cherche pas.
Ouais. Merci beaucoup Fabrice Nicolino. Ça s'appelle Un empoisonnement universel aux éditions Les Liens qui libèrent. Comment les produits chimiques ont envahi la planète. Et vous vous basez évidemment sur des études scientifiques tout à fait fiables et un travail salué d'ailleurs par l'ensemble de vos confrères. Merci beaucoup d'être venu dans La Tête au Carré. J'invite les auditeurs à poursuivre les commentaires en ce moment même. Ils peuvent se répondre et s'écrire sur franceinter.fr sur le site de l'émission.